Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur. Snob.
Journal vivant. Revue politique.
Construction.
Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade. Hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imitait son silence.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le Théâtre de la Gamelle, en direct de Radio Canu, votre émission de théâtre radiophonique tous les vendredis de 13h à 14h. Aujourd'hui, carte blanche avec le collectif de l'âtre, venu nous parler de son nouveau spectacle, Les Pas Brisés, joué et mis en scène par Amandine Vincent et Pauline Thiérault.
Bonjour.
Salut.
Bonjour Sylvain, merci de nous accueillir.
Et avec grand plaisir, je vous laisse pour votre premier texte.
Pablo Neruda, j'explique certaines choses tirées du recueil Résidence sur la Terre, 1969. Vous allez demander, où sont donc les lilas et la métaphysique des coquelicots? Et la pluie, qui frappait si souvent ses paroles, les remplissant de brèches et d'oiseaux? Je vais vous raconter ce qui m'arrive. Je vivais dans un quartier de Madrid, avec des cloches, avec des horloges, avec des arbres. De ce quartier, on apercevait le visage sec de la Castille, ainsi qu'un océan de cuir. Ma maison était appelée la maison des fleurs, parce que de tous côtés éclataient des géraniums. C'était une belle maison, avec des chiens et des enfants. Raoul, te souviens-tu? Te souviens-tu, Raphaël? Federico, te souviens-tu sous la terre? Te souviens-tu de ma maison et des balcons où les lumières de juin noyaient des fleurs sur ta bouche? Frère, frère, tout n'était que cris, celle de marchandises, agglomération de pain palpitant, marché de mon quartier d'Arguel avec sa statue comme un encrier pâle parmi les merluches. L'huile arrivait aux cuillères. Un profond battement de pieds et de mains emplissait les rues. Métro, litre, essence profonde de la vie.
Poissons entassés.
Contexture de toit cernée d'un soleil froid dans lequel la flèche se fatigue. Délirant ivoire des fines pommes de terre. De m'être commencé jusqu'à la mer. Et un matin, tout était en feu. Et un matin, les bûchers sortaient de terre, dévorant les êtres vivants. Et dès lors, ce fut le feu, ce fut la poudre et ce fut le sang. Des bandits avec des avions, avec des morts. Des bandits avec des bagues et des duchesses. Des bandits avec des moines noirs pour bénir tomber du ciel pour tuer des enfants. Et à travers les rues, le sang des enfants coulait, simplement, comme du sang d'enfant. Chacal que les chacals repousseraient, pierre que le dur chardon mordrait en crachant, vipère que les vipères détesteraient. Face à vous, j'ai vu le sang de l'Espagne se lever pour vous noyer dans une seule vague d'orgueil et de couteaux.
Généraux de trahison,
regardez ma maison morte.
Regardez l'Espagne brisée.
Mais de chaque maison morte surgit un métal ardent au lieu de fleurs.
Mais de chaque brèche d'Espagne surgit l'Espagne.
Mais de chaque enfant mort surgit un fusil avec des yeux.
Mais de chaque crime naissent des balles qui trouveront un jour l'endroit de votre cœur.
Vous allez demander pourquoi sa poésie ne parle-t-elle pas du rêve, des feuilles, des grands volcans de son pays natal?
Venez voir le sang dans les rues.
Venez voir le sang dans les rues.
Venez voir le sang dans les rues.
Waouh! Vraiment chouette.
Merci. C'est pas, enfin, bon, c'est surtout Neruda hein, qui a une très belle écriture aussi.
Eh ben, du coup, j'aimerais moi tout de suite vous poser la question de ce projet. Qu'est-ce que ce projet, du coup?
Dans ce projet, donc, c'est une lecture spectacle qui s'intitule donc Les Pas Brisés, C'est un recueil de poèmes qu'on a choisi donc avec Amandine. Il y a des textes donc de Pablo Neruda, de Salah al-Hamdani, de Paul Éluard et de Louis Aragon. Voilà.
Et ça parle de quoi ?
Alors, grosso modo, nous, ce qu'on s'est raconté, alors les thématiques de quoi ça parle de la guerre, de l'humain, de la résistance, dans les grandes lignes. Et nous, ce qu'on s'est raconté dans cette lecture spectacle, c'est qu'on a deux femmes qui, certainement, c'est même, oui, même plus que sûr, ont vécu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. L'une d'elles a subi l'humiliation de la tonte et l'autre a perdu son amant lors de cette guerre qui était probablement résistant et qui est mort à ce moment-là. Et donc ces deux femmes reviennent d'entre les morts pour témoigner de leur histoire, mais pas que de leur histoire, de toutes les histoires et de toutes les guerres. Elles portent la mémoire de toutes ces guerres-là et elles viennent le rappeler aux vivants. Qui sont eux dans le présent et tirer un peu une sonnette d'alarme pour dire soyez vigilants parce que nous on a vécu ça, on a connu cette horreur là et ce serait quand même très beau que ben plus aucun être vivant ne puisse connaître ça et du coup ben voilà, nous on vous donne ça et vous êtes passeurs et essayez de vous souvenir des choses du passé pour pas faire les mêmes erreurs dans le futur et dans le présent. Grosso modo, si je me trompe pas,
non, tu te trompes pas. Après, c'est vrai qu'on se pose pas non plus avec ce choix de ces textes et de la poésie. Et effectivement, donc c'est une lecture spectacle dans le sens où on a fait une mise en scène ou quoi que ce soit. Nos personnages sont vraiment là pour porter ces paroles passées et présentes parce qu'il y a des textes, notamment ceux de Salah al-Hamdani, qui sont contemporains, qui parlent de la guerre en Irak. Mais on se pose pas en tant que moralisatrice ou quoi. C'est vraiment, effectivement, on est passeuse nous aussi à notre tour. Et ce sera au public de faire ce qu'il a envie avec. Voilà.
Et ben, on va pouvoir après revenir justement sur les poètes, sur les thématiques un peu plus précisément.
Bien sûr.
Je pense que c'est déjà une bonne introduction que vous avez faite là. Ce que je propose, c'est faire un petit morceau musical que vous avez choisi.
Oui, bien sûr. Donc, il s'agit d'un morceau d'Eric Satie, qui, pour le coup, c'est dans les musiques qu'on a choisi de mettre aujourd'hui. C'est l'un des seuls morceaux qu'on retrouvera dans la lecture spectacle. Après les autres musiques, on a fait le choix de mettre autre chose pour pas tout vous donner quand même aujourd'hui. Donc, on écoute tout de suite. Thank you.
personne ne connaît, le chemin qui guide la mémoire vers l'oubli.
Vous êtes bien au Théâtre de la Gamelle sur Radio Canu avec Amandine et Pauline du collectif de l'Âtre.
Hey, on est toujours là.
Alors du coup, moi j'aimerais bien savoir un petit peu qui vous êtes, votre parcours un petit peu, et puis le collectif de l'Âtre, voilà, pour voir un petit peu.
Eh ben, on va commencer par nos vies, nos œuvres.
Qui on est de façon indépendamment, et peut-être après on pourra dire comment on s'est rencontrés aussi. Et ben, Pauline, tu veux commencer ou...
Oui, allez,
vas-y, à toi l'honneur.
Alors, moi je suis comédienne de formation pluridisciplinaire. J'ai fait une école publique qui n'existe plus malheureusement, qui s'appelait TDMI, qui était à PRH. Et donc on avait une formation théâtre, danse, chant et images. Et voilà, facard du spectacle, enfin bref, dans le théâtre en tout cas depuis très longtemps. Je travaille depuis 11 ans maintenant avec la compagnie Théâtre Forum Temps Fort, qui est à Saint-Priest. Du théâtre interactif sur des sujets de société, c'est la particularité du forum.
On avait fait une émission.
Avec Gilles Fichez, le directeur. Petite dédicace pour Gilles, qui maintenant a pris sa retraite. Et du coup, voilà, je continue toujours à travailler avec eux. Et après, je travaille avec différentes compagnies de théâtre contemporain. Il y a eu Sœur de, avec la compagnie Mangez-moi de Bron et Émilie Joumard en mise en scène. Et puis, j'ai également monté ma compagnie de théâtre clownesque qui s'appelle Zéa et compagnie. En 2010, c'est beaucoup de solo, beaucoup de déambulation. Et bon, actuellement, Zé est en crise, crise existentielle. Donc, voilà, pour le moment, ça retravaille avant une prochaine création.
Et tu es arrivé à l'Âtre depuis combien de temps?
Et alors, collectif de l'Âtre, moi, je l'ai rejoint en juin dernier. Donc ça fait à peine un an. Je les avais rejoints justement pour un spectacle sur le thème des migrants et également la communication au sein d'une équipe pédagogique. On avait fait ça pour l'ADMR, d'une ADMR, alors je ne sais plus si c'était Rhône ou Ain. En tout cas, c'était dans la région. Voilà. Et donc, Les Pas Brisés, c'est le deuxième projet que je fais au sein de ce collectif.
D'accord. Et toi, Amandine, du coup, qui es-tu?
Qui je suis? C'est une grande question, je ne cesse de me la poser. Bonjour. Moi je suis également comédienne. J'ai été formée de 2005 à 2008 à la Seyne-sur-Saône. À la fin de mes trois années d'études à la Seyne, j'ai commencé à travailler avec une metteur en scène qui s'appelle Anaïs Sintas, qu'on connaît bien ici au Théâtre de la Gamelle, qui a la compagnie Les Montures du Temps, un premier projet pour lequel on est parti à Avignon autour d'un poète symboliste russe, donc encore dans la poésie, même si c'était une pièce de théâtre, mais c'est très poétique. Et puis après, une autre création avec elle en solo, qui s'appelait Une femme seule. Et puis, j'ai rejoint des amis sur Paris pendant 3 ans, où j'ai eu la chance de travailler avec Alix Fournier-Pitaluga, qui est metteur en scène et dramaturge sur des projets qu'elle a écrits et mis en scène, au théâtre contemporain. Et puis, à l'issue de ça, je suis revenue à Lyon, et ça fait maintenant 5 ans. Et ça fait 5 ans que je travaille avec, je les ai pas comptés, mais je pense qu'il y a plus d'une dizaine de compagnies. J'ai jamais forcément eu l'envie ni l'opportunité de monter ma propre structure, dans le sens où ce que j'apprécie, c'est de pouvoir travailler avec des personnes très différentes sur des projets très différents et d'être assez libre de ça.
Et du coup, ton arrivée à l'Âtre?
Et mon arrivée à l'Âtre, alors j'ai pas le nombre d'années en tête, mais je pense que ça fait bien 2 ans maintenant. J'ai rejoint le collectif de l'Âtre sur un remplacement dans un jeune public qui s'appelle Bousse, qui est un spectacle avec des fées. Et c'est un spectacle d'ambulatoire autour de l'eau et on se marre bien d'ailleurs, il y a une belle équipe. Et puis à l'issue de ça, j'ai travaillé donc avec Yvonne Grange, qui est metteur en scène dans ce collectif, sur notamment... 2 interventions pour des associations féministes ou des plannings familiaux. Voilà, et puis d'autres projets un nouveau projet, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, qui s'appelle Planter, et puis Les Pas Brisés également. Donc voilà, on collabore un peu ensemble, quoi.
Ce que je vous propose, c'est juste de faire un tout petit point justement sur l'âtre avant de voir comment est-ce que vous êtes mis ouais. ensemble mm-hmm. justement pour collaborer sur Les Pas Brisés.
Bien sûr. Alors le, bah, le collectif de l'âtre s'est formé en 2008 autour de différentes personnes qui étaient passionnées de littérature et de mouvement. Aussi. Il s'est créé à Montpellier, puis il s'est délocalisé à la Tour du Pin dans l'Isère. Donc le collectif est très implanté à la Tour du Pin et intervient beaucoup dans ce secteur-là. Et on travaille également aussi à Lyon, mais un peu partout, parce qu'il y a c'est un collectif qui est très dense, il y a beaucoup de personnes. On est de nombreux créateurs à graviter au sein de ce collectif. Et du coup, il y a vraiment une multitude de projets qui sont tous assez différents, mais qui ont cette envie d'être dans le théâtre, je dirais, engagé, et qui va surtout questionner la société. Et les problèmes de société.
Et c'est cet engagement, du coup, le côté engagé, qui vous a, vous, engagé à proposer Les Pas Brisés ?
Oui, clairement. Ah bah, moi, je fais quasiment que ça. Enfin, je dis que je travaille avec des compagnies très différentes sur des projets différents, mais beaucoup de mes projets sont quand même engagés. Moi, je pars du principe que le théâtre sert aussi à ça. C'est un moyen d'expression et de réflexion. Mais on peut réfléchir et s'exprimer en s'amusant.
Oui. Oui, effectivement.
Ou en émouvant les gens aussi.
Le principe, en tout cas, pour moi, c'est pareil, je vous en dis là-dessus, c'est questionner la société. S'il y a une utilité, on ne parle pas uniquement d'esthétique ou de choix artistique, c'est vraiment à la base, qu'est-ce qu'on dit, quel est le propos. Et effectivement, l'engagement, les thèmes justement de société, toute la question, les questions sociétales, et également, bien évidemment, les poésies. La poésie, parce que le collectif de l'âtre propose énormément de lectures, et le fait également que le collectif propose des représentations, des lectures dans différents lieux, pas forcément des lieux théâtraux, mais en rue, vraiment tout espace, pour dire, public de prise de parole, c'est ce qui nous intéresse et ce qui fait que le projet a sa place.
A trouvé son sens au sein du collectif oui. de l'âtre.
Bah, ce qui est motivant, c'est d'amener, c'est un grand terme, mais d'amener le culturel ou la culture ou la parole à des gens qui vont pas forcément faire la démarche d'aller au théâtre parce que ça leur paraît élitiste, parce qu'ils pensent qu'ils ont pas les moyens, parce qu'ils ont plein de préjugés. Et c'est pouvoir leur amener ça et montrer que, en fait, ça peut être simple, accessible, et c'est des moments de partage qui sont hyper forts, en fait. Mmh. Moi, c'est un axe de travail qui m'intéresse énormément et j'ai beaucoup joué dans des lieux qui ne sont pas forcément des théâtres, avec plein d'autres compagnies aussi. Donc là, ce collectif, je pense que pour le moment, on se retrouve plutôt. Alors après, comment, parce qu'on a parlé de nous, mais comment nous, on s'est rencontrés, comment est né le projet. On s'est rencontrés ici, au Théâtre de la Gamelle.
Un peu plus de 3 ans maintenant.
Ouais, même. Presque 4 même, je dirais.
Bref,
pas les années.
C'est ça, c'est toujours délicat.
Et puis, on s'est rapprochés, on s'est rencontrés artistiquement. Et il y a eu une envie de travailler ensemble sur des lectures, et notamment de la poésie. Non. Moi, je suis passionnée de poésie.
Pourquoi justement la poésie ? Ça, c'était la question, justement.
Alors, je pourrais répondre pour moi, puis Pauline pour elle, mais pourquoi la poésie ? Parce que moi, c'est déjà quelque chose qui m'émeut beaucoup, qui me touche énormément. Il y a plein de choses tellement différentes dans la poésie. Avec quelques mots, parfois, on peut tout dire. Et ce qui m'intéresse dans le fait de monter une lecture autour de la poésie, c'est de la rendre hyper concrète et accessible. Parce que justement, il y a encore cette image très élitiste, la poésie c'est pas pour moi, je comprends rien, j'entends souvent ça. Oui, mais moi souvent, tu comprends, la poésie je comprends rien, alors bon, ça me dit trop rien de venir. Alors je dis, bah viens, et puis tu verras que c'est possible en fait de comprendre et de la rendre concrète, et après, bah, t'en feras ce que tu veux. Et généralement, les retours que j'ai eus sur des précédentes lectures autour de la poésie, c'était « c'est génial, ça donne envie de la lire ». Et donc
ça, c'est chouette,
super chouette, quoi. Et ben voilà, parce que j'ai un amour des mots, de la langue, de la musique, et il y a tout ça dans la poésie, quoi. Voilà ce que je pourrais dire pour moi, je m'appelle...
Pour faire le lien aussi avec comment on s'est rencontrés, effectivement, il y a une rencontre artistique qui s'est faite. Et Amandine m'avait proposé de faire un remplacement sur une lecture de Prévert. Oui. Donc on a fait qu'une fois, malheureusement, mais qui était vraiment très très chouette. Et c'est vraiment suite à cette ce travail concret de cette lecture de Prévert ensemble, on s'est dit. Voilà, vraiment, on se kiffe, quoi, en fait. Donc, allons plus loin. Et effectivement, la poésie, c'est quelque chose qui entre autres, nous rassemble. Et pour moi, c'est magique, la poésie, parce qu'elle évoque plein d'images. Et j'aime beaucoup fonctionner comme ça sur les images. Comment est-ce qu'on peut voyager dans sa tête? Comment est-ce qu'on peut se laisser porter? Et surtout, du coup, c'est d'autant plus jouissif parce que chacun voyage comme il en a envie, avec ce nom-là où les mots le touchent, quelle image ça apporte, ça lui apporte, à quel endroit ça fait écho chez lui, dans sa vie, dans ses questionnements, dans ce qui le meut, en fait. Et du coup, il y a une très grande liberté dans la poésie. Bien évidemment, pareil, quand il faut la donner, c'est un vrai partage. Bien évidemment que les fois où on a pu entendre la poésie déclamée comme ça, qui donne déjà en fait quelque chose, un cadre, je dirais même une prison. Vraiment, ça c'est un petit peu moins intéressant. Mais ça, on se rejoint complètement là-dessus.
Alors, du coup, justement, par rapport au public, parce que là, vous dites vouloir partager cet amour de la poésie, votre poésie, vous la partagez auprès de qui,
si vous pouvez? Toutes et de tous. L'idée, c'est qu'elle touche le maximum de personnes et que n'importe quelle personne puisse s'y retrouver de n'importe quel milieu socioculturel. Alors après, bon, sur les choix des textes dans cette lecture-là, je dirais que ça peut être accessible à partir de 12 ans. Parce qu'on peut pas toujours toucher les 7 à 100 ans. Là, je dirais à partir de 12 ans, parce que la thématique abordée est quand même assez lourde. On parle quand même de guerre.
Donc, de guerre, ça parle quand même de la réalité crue de la guerre. Donc il y a des mots et du coup des images qui sont assez violentes. Enfin, en tout cas, qui sont très 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 marquantes. Donc bien évidemment que là le jeune public n'est pas
convié sur ce projet-là, en tout cas. Mais il a la volonté de s'adresser au plus large public possible, avec cette volonté de jouer partout et pourquoi pas à l'issue des, enfin c'est même sûr, à l'issue des représentations, d'aller à la rencontre de ce public et d'avoir des moments de partage et d'échange sur la poésie, mais aussi sur les questions que soulève notre lecture et le choix de nos textes, en fait. Nous, ce projet, il est vraiment né dans un contexte particulier et c'est un bébé qu'on couvre depuis longtemps. Parce que l'idée du projet a commencé en 2014. Fin 2014.
Ah oui, d'accord. Donc,
mais du coup, quelques mois après, il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo.
Voilà.
Et on avait déjà fait nos choix de texte après avoir lu beaucoup de recueils d'auteurs, on savait justement qu'ils allaient traiter des thèmes qu'on a choisis. Quand on a relu la première fois, à peine quelques jours après justement cet événement-là, on avait les poils dressés, on a vraiment eu une émotion extrêmement forte. Qui est arrivé et on s'est dit on va pas lâcher parce qu'effectivement c'était quand même posé la question qu'est-ce que ça peut donner parce qu'au départ on parlait des guerres parce que au niveau mondial des guerres il y en a plein et là il y a quelque chose de plus concret en tout cas pour le peuple français
Et
donc cette poésie pouvait permettre de pouvoir parler de ces guerres d'une manière plus forte, plus directe par rapport au contexte qu'il y a actuellement.
Bah donc le contexte faisait écho au choix des textes qu'on avait, c'est-à-dire que le contexte d'un coup c'était hyper fort et c'était hyper dominant quoi. On s'est dit faut qu'on bosse là-dessus.
Il faut le faire.
Après moi je sais que cette thématique-là de l'humain, de la guerre, c'est l'une de mes thématiques phares. Je sais pas pourquoi ni comment qu'est-ce, d'où ça vient, mais ça m'interroge beaucoup et ça m'attriste énormément que l'humain puisse être doué d'autant de cruauté et de malveillance, je sais pas si ça se dit, mais alors que ça pourrait être tellement simple et que souvent les questions qui amènent à la guerre sont des questions quand même très basiques et très cons quoi, si je peux me permettre de dire ça. Donc du coup, c'est vrai que tout ça, ça nourrit moi, c'est mon envie de continuer à travailler sur ces thématiques-là, et puis ça nous a mis dans le concret et dans le, c'est vraiment important en fait d'en parler. Il faut en parler, il faut pouvoir toucher les gens là-dessus, et à travers la poésie, c'est encore plus fort parce que la poésie des fois on peut avoir une image très mignonne, mais là du coup,
ça ne l'est pas.
C'est un peu plus poignant quoi.
Alors justement. La poésie, donc des poètes. Quel poète ?
Alors, le choix n'est pas anodin, j'ai envie de dire. Il y a un poète qu'on a découvert un peu par hasard à la médiathèque de Vez, qui s'appelle Salah Al-Hamdani, qui est le seul poète vivant de notre lecture. Et tout de suite, ces mots ils nous ont parlé. Enfin, j'ai eu un vrai coup de cœur pour son écriture.
Peut-être deux mots rapidement. Du coup, c'est un auteur irakien qui est arrivé en France en 1975. Donc, il habite Paris depuis. Et
qui est en exil, en fait, parce qu'il est menacé sous le régime de Saddam Hussein.
Exactement. S'il arrive en France, c'est pour cette raison-là. Il écrit en arabe et en français. Et il est édité au Temps des Cerises,
entre autres. Et il fait aussi du théâtre également. Il a travaillé avec Jean-Pierre Simon, notamment, qui est également dramaturge et poète, j'ai envie de dire. Il fait beaucoup de choses très différentes. Il a aussi parce qu'on a eu la chance de le rencontrer au téléphone pour le moment, mais on espère en vrai bientôt. Et donc, il nous a envoyé, il a mis ses poèmes en voix sur de la musique. Il a travaillé aussi avec un musicien. Donc il fait beaucoup de choses très différentes.
Et du coup, on vous invite vraiment à aller voir son site internet. Donc Salah Al-Hamdani, on va vous épeler comment ça s'écrit. Donc Salah Al-Hamdani.
Voilà. Ça, je vous invite vraiment à aller découvrir son écriture.
Vous avez les vidéos sur son site, également sa biographie. Il travaille beaucoup avec une traductrice. Je crois, et sa compagne, et j'ai bouffé son nom parce que j'ai pas les notes sous les yeux. mais voilà, il y a vraiment des extraits de poèmes. Enfin, c'est très très intéressant, très 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 riche comme.
D'ailleurs, à la reprise de la musique d'avant, vous avez lu un texte de
exactement. Un très court poème qui s'intitule Vérité.
Et là, les poèmes qu'on a gardés pour cette lecture-là, sont tirés uniquement du recueil qui s'appelle Bagdad, mon amour, et qui parle de son exil, entre autres, et aussi de l'Irak, de son pays.
Quels sont les autres poètes, justement ?
Eh bien, on retrouve Pablo Neruda, qui pour le coup est un peu plus connu.
Exactement, et là, on a choisi le recueil des poèmes du recueil Résidence sur la Terre, donc il a écrit en 1969. Et qui parle du coup de comment ça s'est passé en Espagne, donc une guerre encore plus un peu plus contemporaine comparée à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a donc choisi également Éluard et Aragon qui vous parlent plutôt de ce temps-là, et donc c'était important aussi. Je sais que je parle pas trop des auteurs, mais on les a quand même choisis aussi pour qu'il puisse y avoir vraiment avoir une continuité dans l'histoire contemporaine Et voilà, pour rappeler qu'effectivement, ça se répète, ça se répète.
Et puis aussi parce qu'on les aime. Et à l'issue de nos choix, on s'est rendu compte, bon, c'est certainement pas un hasard, mais on s'est rendu compte que ces quatre poètes étaient communistes. Alors, ils auraient pu être complètement un socialiste, un communiste, un anarchiste, tu vois, mais voilà, ouais, les quatre étaient communistes, quoi. Donc, j'ai l'impression que dans leur écriture, il y a quelque chose quand même de très commun, dans leur façon de raconter les guerres. Il y a quelque chose qu'ils ont en commun et qui fonctionne ensemble, en fait. La difficulté, là où on a passé du temps, ça a été de faire le montage, de choisir à quel moment on mettait quel poème, parce que du coup, c'est pas on va tout lire Aragon, puis après on va vous lire Éluard, puis après Neruda, puis après c'est la Lame d'Annie. Non, on a choisi des poèmes.
Entre eux et qui a une cohérence.
Les échos, en fait, comment les textes, d'abord, on est parti vraiment sur nos coups de cœur, les textes qu'on adorait de chacun de ces auteurs-là, et ensuite comment ces coups de cœur se faisaient écho l'un l'autre. Et c'est à partir de là qu'on a monté effectivement le recueil. D'abord, il y a peut-être simplement ce qu'on constate, le constat ou les prémices d'une guerre, les prémices des violences. Je dis en vrac, hein, aussi, là où il va y avoir plutôt de la rage. Il va également y avoir donc la résistance et puis l'espoir et le questionnement. Donc voilà, on avait vraiment envie que ça puisse qu'on puisse voyager d'un texte à un autre, mais en gardant ces, en fait, voilà, comme disait Amandine, ils ont quelque chose, une intensité dans chacun de ces poèmes qui fait que voilà, les échos se sont faits assez facilement.
Donc quatre poètes, voilà. Les échos.
19 textes au total.
Au total 19 textes.
Et dont Aragon, dont je vous laisse.
Ah bah oui, tiens, on peut peut-être en effet lire la romance des 40 000. C'est parti.
Qu'on dit mourant les cheminots de Rennes, qu'on fredonne les cachots de Paris, cette clameur que les bourreaux entraînent, Chateaubriand, les passants la reprennent.
Et fusillé, le refrain refleurit,
désespérant ailleurs te faire taire.
Voici chez toi les étendards gammés,
chanson qu'avons-nous nos aïeux chantèrent.
Tu disais vrai, chanson des volontaires.
Et dans nos bras saignent nos bien-aimés.
Tes mots avaient ici toujours le sens dont se grisa l'Europe en d'autres temps.
Et les tyrans pâles de leur puissance vinrent chercher où le sang prit naissance, dans le vieux port, ce cœur rouge battant.
Quel point de fer a frappé sur la porte?
Que voulez-vous, fils de la trahison?
Qu'avons-nous fait qui fait qu'on nous déporte?
Comme à des cerfs qui tombent en main morte,
oserez-vous nous prendre nos maisons?
Où je suis né, laissez-moi que j'y meure,
dit le vieillard à ceux qui le chassaient.
Quoi? Des Français nous volent nos demeures?
Quoi? Des Français se font écumeurs pour l'ennemi torturant des Français?
Ça? Des Français?
Les enfants les regardent avec des yeux qui croient qu'on les trompa.
Il faut s'enfuir avec nos maigres hardes.
Ça, des Français? Ô Vierge de la Garde, vous les voyez et vous ne bronchez pas?
Que l'étranger ne trouve que les braises de notre haine au foyer déserté.
Janvier vengeur souffle une Marseillaise.
Par la fenêtre où vont valser les chaises, jette ton cœur s'il ne peut s'emporter.
40 000 en marche vers le bagne.
40 000 en marche vers le bagne.
L'étrange chaîne
et l'étrange convoi.
D'Afrique vient qui tourne et l'accompagne, un vent d'espoir dont blémit la campagne. Et la chiourme écoute cette voix.
Un air ancien dont les tyrans s'émurent siffle ce soir au Simoun d'Algérie.
40 000 en marche
et qui murmure. Cette terre issue, Marseille, de tes murs.
40 000 enfants de la patrie.
Eh ben, sacré claque, encore.
Voilà, un poème d'Aragon.
Très fort, très très fort. Et du coup, c'est toujours bizarre de pouvoir revenir.
Oui, c'est ça, vas-y. Amuse-toi, fais le lien maintenant.
Bah, alors, je vais revenir au niveau de la thématique, si ça vous va. Parce que du coup, on va arrêter un petit peu ici par rapport aux thématiques. La thématique de la guerre, thématique actuelle, par rapport comment le porter par la poésie auprès d'un public peut-être qui a besoin d'entendre différemment, peut-être besoin de comprendre différemment. Mmh. Et vous, par rapport à cette thématique-là, qu'est-ce que vous pourriez en dire d'autre? Qu'est-ce que vous voudriez en dire d'autre?
Alors, par rapport à la thématique, qu'il ne faut pas arrêter d'en parler. Et le but de cette lecture, voilà, c'était vraiment de toucher les gens, de les ébranler un petit peu, parce que la thématique, elle n'est pas drôle. Enfin, je veux dire, c'est quand même grave comme sujet. Donc, on voulait être grave, entre guillemets. On voulait toucher les gens. Mais si on se cantonne à être juste dans la dureté des propos, c'est trop chargé pour le spectateur. Et du coup, l'idée, je reviens un peu sur l'idée de lecture spectacle, lecture parce que on lit les textes, spectacle parce que il y a de la mise en scène, et justement cette mise en scène amène
une respiration en tout cas,
des respirations. Moi je dis parce que là on se rend compte que les textes sont très forts, donc oui. Pour rassurer l'auditeur et le voir futur spectateur, c'est pas étouffant. On fait en sorte que ça ne le soit pas. Ça va l'être un peu forcément. Ça va ébranler. Et c'était le but, parce que cette thématique est universelle. Malheureusement, les guerres ont toujours existé, et malheureusement, elles existent encore. Et en ce moment, il y en a une qui est quand même, entre autres une, parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais on voit en ce moment avec la Syrie, par exemple, c'est terrible.
C'est ça qui nous avait d'ailleurs poussé à choisir cette thématique dès le départ, fin 2014, parce que ça avait déjà commencé à ce moment-là, et on se dit, putain de bordel de merde, excusez-moi pour les mots, mais c'est ça.
Mais c'est un peuple entier qui est décimé au nom de quoi? Pourquoi, dans le fond, pourquoi? Les raisons, elles sont absurdes.
Cette guerre, elle date déjà depuis 2011, les premières manifestations, 2011, on est en 2017.
C'est terrible. Là.
Oui.
C'est terrible. Et nous, en France, on pourrait dire quelque part qu'on est plus ou moins en guerre, mais on ne ressent pas, nous, sur notre territoire. Mmh. Ça fait plus de 70 ans, enfin, je n'ai pas les calculs dans ma tête, mais qu'on n'est plus dans ce contexte-là. Moi, j'ai un papa, par exemple, qui est en 51, qui du coup, a ressenti le côté après-guerre, la pression de tout ça. Nous, on ne l'a pas tellement connu, et les générations qui viennent là, elles ne le connaissent pas du tout. Et du coup, c'est hyper important de continuer à en parler, d'éveiller les consciences et de dire ça existe encore, soyez vigilants. Quoi.
Et surtout aussi, ce qui là, je vais parler en nom, mais ce qui m'énerve profondément, ce qui me... Voilà, alors je suis désolée, je parle effectivement pas anglais, je pourrais me... Je sais pas si ça m'angoisse, si ça me... Enfin, ce qui me gêne, ce que je ne supporte pas, c'est que même des personnes qui vont effectivement avoir connu plus ou moins l'après-guerre ou quoi que ce soit, ou peu importe en fait toutes les générations depuis effectivement que la Seconde Guerre mondiale soit finie, les gens veulent pas voir. Les gens ne veulent plus y penser. Les gens, effectivement, on va parler de société. Ça fait des décennies là qu'il y a un individualisme qui s'installe et qui pourrit tellement de choses. Et c'était aussi la question de remettre le nez dans le caca, quoi. Là, vous ne pouvez pas, ne fuyez pas. Vous ne pouvez pas fuir, parce qu'en fait, on habite tous sur la même planète. Alors, je parle pas du monde des bisounours, hein, mais on est tous sur. Enfin voilà, il y a forcément toutes des corrélations. En plus, la mondialisation fait que voilà, les échanges maintenant sont mondiaux, tout se fait de manière mondiale, et on va arrêter de penser à nous, en fait.
Et puis bon, là, c'est la question de la guerre, mais il y a aussi la question de l'humain, et on voit et on assiste de plus en plus à une montée de la haine. La haine, parce que t'es différent, parce que t'as moins d'argent que moi, t'es un profiteur, du coup je te pointe du doigt, parce que tu viens de tel pays, tes parents sont nés là-bas, et ben t'as rien à foutre ici, parce que t'es homosexuel, et ben t'as pas le même droit que moi, parce que t'es...
Et oh, face à une bombe qui t'explose à la gueule, on est tous pareils.
C'est ça, on a tous une tête, deux bras, deux jambes, généralement, et un cœur, un cerveau, et on dit, il faut s'en servir, quoi.
Oui, je comprends bien. Et du coup,
voilà, c'est Aragon.
Et là, je vous vois passionné. Du coup, Aragon, chanté par le...
Par un autre grand poète et chanteur, bien sûr, notre ami Léo Ferré, qui a chanté donc L'Affiche Rouge, un poème d'Aragon qui a été mis en musique. Et bah, en effet, on peut peut-être se faire une pause musicale avec la...
C'est bien thématique, là.
Donc, bah, c'est parti, on va écouter ça.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard, on est vivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Éthique. La tolérance est la première condition du bien-être parce qu'elle maintient la probabilité que le regard de l'autre demeure traversé par une promesse de fraternité. Salah Al-Hamdani.
Vous êtes bien au Théâtre de la Gamelle sur Radio Canu avec toujours Amandine et Pauline du collectif de l'âtre.
Voilà, on est encore là.
Toujours. On est reparti. Non, non.
Alors moi j'aimerais qu'on puisse resserrer un petit peu tout ça par rapport à, au spectacle en lui-même, oui. Voir un petit peu les aspects, on va dire plus pragmatiques, ce qui se passe sur scène. Il y a de la vidéo, il y a de la musique, voilà, de parler un petit peu de votre travail. Donc, ben, quelle forme ? Ça va être la première question.
Eh ben nous, ce qu'on voulait effectivement, c'est rendre la lecture vivante, qu'elle puisse être clairement entendue et qu'elle ne plombe pas de manière générale, d'autant plus avec les thématiques que nous avons choisies. Donc on lit les textes effectivement, mais après voilà vraiment un jeu de mise en scène qu'on a créé et qui vient du coup tisser sa toile entre les textes, en partant effectivement de l'histoire qu'on s'est racontée chacune de ces deux personnages de femmes. Qu'est-ce qu'elles ont vécu justement, d'où elles viennent, et
help. cette mise en scène, elle permet aussi de faire le lien entre les textes. Elle amène la respiration, les respirations dont on a besoin. Elle la rend en effet vivante, pas ludique, parce que ce serait un peu péjoratif comme terme là. Pour cette lecture-là, mais en tout cas, elle permet de lui donner de la texture et de la profondeur. Et elle amène aussi une autre lecture quelque part, parce qu'il y a un moment notamment où il y a une sorte de lâcher total, où il y a une sorte de jeu, on va dire, qui pourrait paraître enfantin et qui, pour le coup, amène une vraie respiration. Parce que les textes sont assez durs, parce qu'on les prend à bras le corps et qu'on vit plein d'émotions avec le public. C'est un moment où du coup on va on souffle ensemble, c'est la récré là, parce que sinon à la fin de la lecture, enfin les gens ne peuvent pas rester, c'est pas possible.
Et même nous, pour continuer à pouvoir porter ces mots là, il faut qu'on puisse évacuer.
Il y a quand même des paroles d'espoir. Donner aussi ces paroles d'espoir. Oui. J'imagine qu'à un moment donné, il faut pouvoir vider, permettre la respiration.
Bah, Éthique, qu'on a entendu là, c'est clairement un poème qui amène une note d'espoir, quoi. Il fait partie de cela, quoi. Et à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un basculement dans le choix des textes, un petit peu. On peut sentir une sorte d'évolution. Du coup, on bascule plutôt dans la notion de l'espoir et de aller maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors, on change des choses.
Petite question scénographique.
Oui.
Il y a quoi sur scène?
Alors,
on dit.
Il y a de la terre.
On va dire, il y a deux mottes de terre. Parce que, ça aurait été très bien, mais bon, on n'a pas la tourbe qui remplit entièrement la scène, comme Pinabao chez le Sacre du Printemps, même si ce serait fabuleux. On a également deux pupitres, forcément.
Pour pouvoir lire,
Même si parfois on a souvent aussi les textes à la main. Il y a un écran
pour la vidéo. Et une cible. Mais ça, on ne sait pas pourquoi. Ça faut venir découvrir pourquoi elles ont une cible sur scène. Et puis une super valise pour cacher notre super technique. Parce qu'on n'a pas de régisseur.
Donc, une bouteille de Porto, deux verres à ballon.
Et voilà.
Et c'est déjà pas mal.
Ça donne envie, en tout cas.
Et puis la terre, on la retrouve sur nos corps aussi.
Ouais. On a effectivement des costumes et c'est pas du coup un maquillage, mais les éléments sont là. Alors au départ même, si on veut parler un peu de tout, moi j'avais les idées de vouloir amener des odeurs. Je voulais des odeurs de blé chaud. Va trouver des odeurs de blé chaud.
Pauline a beaucoup d'idées, mais
comment les mettre en place.
Mais il vaut mieux en avoir plein et après on fait le tri. C'est quelque chose moi qui reste encore un peu à l'esprit. J'avoue, si je trouve aussi quelqu'un qui écoute se dit ah mais moi je peux te faire une odeur de blé chaud.
Donc l'appel est lancé.
Parce qu'effectivement, il y a des choix donc de musique, de bandes son.
Voilà, il y a la musique aussi, ouais. On retrouve un chanteur qui s'appelle Serge Royo.
Oui.
Serge Royo. À chaque fois, je le dis. Il y a également une chanson du groupe La Tordue, qui s'appelle La Guerre. Et Eric Satie. Et puis, un chant d'esclave. Sur l'esclave noir.
C'est ça. Voilà. Et sur Satie, ça va bientôt changer.
Voilà, alors Satie, ça va changer parce que donc pour l'instant, Satie se retrouve sur notre introduction qui est la vidéo. Mais on travaille en collaboration avec un musicien qui est en train de nous créer une bande sonore pour cette vidéo. Pour rappel, cette vidéo, on l'a faite avec un Baptiste photographe, voilà, qui s'appelle Baptiste Morel. À l'origine, encore une idée de Pauline, je lui ai dit, ouais, on a de la technique, on n'a pas de régisseur, c'est quand même compliqué, tu te rends pas compte. Si, si, moi je veux des photos projetées et ce serait bien qu'on les projette sur nos corps. Bon, ça a un peu changé parce que c'est techniquement très compliqué de faire du mapping. Ouais.
Mm-hmm. Sans que ce soit forcément un mapping, mais sur les temps où les photos pouvaient être projetées, c'est-à-dire que vu qu'on n'a effectivement pas de régisseur, on est complètement autonome, grâce à Amandine d'ailleurs, qui a fait un boulot fantastique là-dessus, on pouvait difficilement pouvoir lancer des choses en régie avec donc notre l'ordinateur qui est sur scène pendant la lecture. Et puis aussi, on a beaucoup discuté donc avec Baptiste Morel de ce projet-là, et c'est lui qui a amené cette idée de vidéo, de vraiment pouvoir faire un court-métrage à part entière.
Et on peut dire qu'on l'a adoré quand on a dû faire le tournage. Parce que nous avons tourné dans la neige. Et pas très... pas chaudement habillé, en tout cas.
Non, avec la tenue de scène. Donc, imaginez-vous bien qu'on n'est pas sur scène avec des moufles et une doudoune. Donc, voilà. Et on est ravis, mais vraiment ravis du résultat. Ça a été une magnifique collaboration, vraiment.
Une belle vidéo, du coup.
Et belle vidéo, on espère.
Qui apporte beaucoup, enfin, qui apporte, comme elle vient en introduction, en conclusion, et elle apporte quelque chose d'assez fort, cette vidéo, avec ces grands troncs d'arbres alignés, comme ça, ce blanc maculé. Voilà, on a cherché des endroits qui pouvaient évoquer aussi un peu des champs saccagés après la guerre. Et ça, c'est fort en termes d'image. Enfin, il a fait un très très beau travail, il nous a amené beaucoup d'idées et c'est super, quoi.
Et du coup, la narration est d'autant plus forte. Parce que vraiment, il y a une vraie introduction, une vraie conclusion à cette lecture et pour le coup, sans mots.
Eh bien, je vous propose, après avoir décrit un petit peu les images, le texte, Bagdad mon amour.
Alors, c'est Bagdad mon amour, avant les jours heureux, de Salah Al-Hamdani.
Tu n'as à te crucifier ni au bord de la page d'une histoire qui n'est pas tienne, ni au rythme des morts qui couvent tes fléaux, car il n'y aura nulle part de cri pour soulager ta douleur.
Tu n'as pas à te crucifier aux rives des ruisseaux qui saignent ton corps, quand l'Euphrate essuie le secret de son âme à la naissance d'une nouvelle défaite. Je le sais, aucune blessure ne mérite une guerre.
Tu n'as pas à te crucifier à la tombée de la nuit, alors que tu n'as pas fermé tes prières sur le corps des palmiers, car il n'existe pas d'assassin honorable. Tu n'as pas à te crucifier par la cendre des calamités, par les tombeaux de tes dieux, ni pour la croyance d'une humanité moribonde. Bagdad, mon amour, ni fils, ni père, ni dieu, aucun prophète couronné par l'Église ne sauvera ton âme, ni celui de la Mecque, ni celui de ceux qui refusent le partage des oliviers en Palestine. Voilà mon calepin sur la guerre, les années d'exil, pliées dans une valise trop longtemps abandonnée aux rêves du condamné. Voilà ma part de malheur, comme une virgule verrouillant un trait d'encre. Bagdad, mon amour, j'étais accroupie dans le coin de la page à l'abri des jours arides, loin des torrents de sang qui emportent le nom des fusillés avec le silence des condamnés. Bagdad, mon amour, assis comme un bédouin dans un mirage, allongé sur mes rivages, je chérissais mon propre linceul. Loin de la croix, de la paume de Fatma et de l'étoile de David. Loin de leurs livres, de leurs guerres, errant dans les sables des dunes, de la steppe à la ville, je traîne mon corps de saison en saison. Je te trimballe du canapé au miroir, entre ma solitude
et mon écriture, à l'abri des jours arides, à l'abri de leur cimetière, de leur martyr, de leur guerre, de leur morgue.
Bagdad, mon amour, tu n'as pas à grelotter au seuil de ces débris de jour, une civilisation dressée pour tuer à violer ta virginité. Bagdad, ville à jamais insoumise à son bourreau Saddam, tu n'as pas à gémir à la seule révélation de cette hégémonie.
Ceux qui s'agitent autour de ton corps à l'agonie, ses libérateurs sont ses complices.
Bagdad, ma blessure. Mon père, l'ouvrier, est mort sans connaître la joie. Ma mère a égaré sa jeunesse dans le miroir. Et le seul témoin de mon premier chagrin sur ta poitrine est le souffle du sable, le ciel étoilé et le regard de Dieu sous la peine de la prière.
Madina al-Salam, cité de la paix, amour dans l'âme de l'écriture.
J'aurais tant voulu aujourd'hui que l'homme n'ait jamais découvert le feu et le maudit d'avancer dans son propre vacarme.
Cette terre qui m'a fait naître, aujourd'hui mise à mort. Ô mère, je veux retourner dans ta chair pour écouter les battements de ton âme, pour me désaltérer au balbutiement de ton souffle. 25 mars 2003.
Désolée pour les petits pocs,
on a eu un problème de texte.
J'ai oublié une page en fait, du coup c'était une version spéciale radiophonique là pour le coup. Voilà.
Ça s'est même pas vu.
Ah bah c'est cool, ça s'est peut-être entendu par contre.
On se fait un petit point calendrier ?
Oui, ouais, bien sûr.
Alors,
à vos agendas.
Alors, ce soir nous avons notre première, mais pas à Lyon. Nous allons vers mon territoire
familial.
Nous allons dans l'Ain, à Césarieux, au théâtre de l'Arrosoir, où nous jouons ce soir à 20h.
Et c'est en soirée d'ouverture pour le festival Les Maudits.
Un festival de poésie. Et c'est la deuxième édition cette année. C'est un petit village assez dynamique et qui a un petit théâtre très, 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 très chouette. Et puis, la date prochaine et la première lyonnaise, c'est le mercredi 5 avril à 20h à Agendar, qui se trouve 4 rue de Belfort. N'hésitez pas à réserver vos places sur le site d'Agendar, donc AGEND'ARTS, parce que la salle est toute petite. Et puis, si vous ne pouvez pas être libre le 5 avril, c'est pas grave, vous pouvez venir le 10 mai à 19h30 à la bibliothèque de Saint-Jean, qui se trouve à côté du conservatoire, pas très loin du métro Saint-Jean. Et là, vous pourrez, je pense, faire une réservation auprès de la bibliothèque directement. Et puis, enfin, une dernière date pour le moment, parce que c'est que le début, ce sera le 8 juin. À la boulangerie du Prado. Alors pour l'instant, pour l'horaire, c'est pas encore tout à fait défini.
Ce serait autour de 19h30, mais c'est voilà. Confirmé.
Mais du coup, si vous voulez, si vous êtes intéressé par cette lecture, vous pouvez aller voir sur le site de l'ATRE, www.atre.fr. Vous trouverez certainement les infos et surtout, vous trouverez toutes les infos du collectif.
Et aussi sur le Facebook, la page Facebook du collectif de l'ATRE.
Alors. Du coup, je vois que la montre, elle avance quand même relativement vite.
Oui.
Il nous manque encore un texte.
Ouais, moi je pense qu'on a le temps de le faire parce qu'on n'a pas encore entendu Éluard.
Oui.
Donc ce serait bien de l'entendre et puis on se quittera là-dessus.
Oui, alors juste avant, je vais quand même vous dire quand même la semaine prochaine sur le Théâtre de la Gamelle, une émission consacrée à Horowitz et aussi une rencontre avec une compagnie qui s'appelle Tamerantong. Donc je le fais là effectivement, comme ça, ça vous laisse la place pour ce dernier texte.
Tout à fait. Gabriel, ouais, vas-y.
Qui s'intitule Gabriel Péri et qui est tiré du recueil Au rendez-vous allemand. Un homme est mort qui n'avait pour défense que ses bras ouverts à la vie.
Un homme est mort qui n'avait d'autre route que celle où on hait les fusils.
Un homme est mort qui continue la lutte contre la mort, contre l'oubli.
Car tout ce qu'il voulait,
nous le voulions aussi.
Nous le voulons aujourd'hui.
Que le bonheur soit la lumière au fond des yeux,
au fond du cœur,
et la justice sur la terre.
Il y a des mots qui font vivre, et ce sont des mots innocents.
Le mot chaleur,
le mot
confiance, amour, justice.
Et le mot liberté, le mot enfant
et le mot gentillesse.
Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits.
Le mot
courage
et le mot
découvrir.
Et le mot
frère
et le mot
camarade.
Et certains noms de pays, de villages, et certains noms de femmes et d'amis.
Ajoutons-y Péri. Péri est mort pour ce qui nous fait vivre.
Tutoyons-le, sa poitrine est trouée. Mais grâce à lui, nous nous connaissons mieux.
Tutoyons-nous, son espoir est vivant. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre écoute.
Merci Sylvain.
Merci à vous. Merci,
donc, voilà,
merci
la lecture spectacle, donc Les Pas Brisés, à partir du 5 avril à Agen d'Art.
Pour les Lyonnais.
Merci. Bah, d'ici là, n'oubliez pas d'aller au théâtre, d'aller
voir les concerts.
Il y a beaucoup de choses en ce moment, donc les beaux jours arrivant.
De profiter de la vie, de vous faire des câlins, de vous aimer. Voilà, soyons un peu utopistes.
Profitons du printemps.
Bonne journée à tout le monde.
Et bon week-end.
Bon week-end.
Ciao.